À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici avec vous. Eh bien, la dernière fois, nous avions parlé du culte de l'urgence. Bonjour Lia.
Bonjour Catherine.
Comment va?
Je vais très bien, merci beaucoup.
Voilà, nous avons travaillé sur le culte de l'urgence.
Oui, c'était très intéressant d'ailleurs.
Oui, voilà. Et donc là, nous allons passer à un autre sujet. Mais je tiens à rappeler quand même que tous les auditeurs, toutes les auditrices peuvent nous appeler au 03 29 62 40 40 ou intervenir sur nos pages Facebook qui sont
Ralentir pour vivre déjà, Radio Gemozo ou Gemozo tout simplement.
Voilà. Donc nous allons aujourd'hui entamer un autre sujet parce que, comme d'habitude, quand je prépare les émissions, c'est toujours une surprise de 15 jours en 15 jours. Et vendredi dernier, je me dis, Catherine, c'est mardi, maintenant il faudrait voir à te remuer un petit peu. Et qu'est-ce que je fais? Je tape sur mon ordinateur. Burnout 2026. Je me suis dit, est-ce que 2026 va m'apprendre quelque chose?
Eh bien oui, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Mmh. Et sur quoi je tombe? Sur la génération Z.
Ok.
Donc nous allons aujourd'hui parler de la génération Z face à l'épuisement. Mmh. Et nous aurons une invitée qui est avec nous, Lily. Bonjour Lily.
Bonjour. Voilà. Merci de l'invitation.
Ah ben oui, et qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, du Québec, ça s'entend probablement.
Ben là, maintenant, peut-être un peu mieux, voilà.
J'adore cet accent en plus.
Voilà.
Ouais, c'est incroyable.
Et justement, je prépare ça vendredi, elle arrive samedi, puisqu'elle est en woofing en ce moment à Ralentir pour vivre, et on parle de génération Z, et Lily me dit « Ah, mais c'est bon, je connais, je fais partie de la génération Z ».
Et oui, c'est moi.
Voilà.
c'est ma gagne.
Voilà. J'aime bien, il y a les...
C'est ma gagne.
Oui, oui, voilà.
Qu'est-ce que j'aime... ça veut dire, c'est ma gagne? C'est mon clan?
C'est mon clan, okay. Ouais,
voilà. Donc, nous allons parler de ce sujet. Alors, pour démarrer, on va déjà avoir une petite explication parce que toutes ces... Alors, je suis d'accord avec Lily, dont on parlait hier de ça. Pourquoi on arrive à Z? Ah non, c'est peut-être pas toi qui avais dit ça.
Oui, oui, oui.
Si, si, pourquoi on arrive à Z?
Tout de suite, en fait. Pourquoi on est parti à X dans les lettres de l'alphabet? Parce que maintenant, on se retrouve tout de suite avec les alpha, bêta et tout. Mais ouais. Pourquoi on n'est pas parti à A à la base?
Oui, ouais, c'est
donc
vrai.
C'est une bonne explication. Donc, on va déjà comprendre qu'est-ce que c'est que cette génération Z.
Après la génération X, puis Y, dont on a beaucoup parlé récemment, place à la génération Z, des jeunes ultra connectés mais aussi très optimistes et ambitieux. Cette nouvelle appellation, nous la devons encore une fois aux sociologues. Mais alors, quelle différence entre les Y, les Z? Pourquoi ce classement ce soir? C'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Vicky, une première, eh bien, qu'est-ce que la génération Z?
Eh bien, Karel, la génération Z, c'est le nom donné aux jeunes nés après 1995. Des adolescents hyper connectés. Ils sont nés avec Internet et les réseaux sociaux. Responsables et économes, car leur génération a toujours connu la crise. Très influents au sein de leur famille, les parents sollicitent même leur avis avant de faire des achats. Les rôles sont en quelque sorte inversés. Des adolescents aussi très individualistes qui ne comptent que sur eux-mêmes pour réussir. Il faut savoir que cette génération Z va représenter un vrai défi pour les entreprises car ces jeunes veulent travailler pour se faire plaisir et pas uniquement pour l'argent. Et ils n'hésiteront pas à claquer la porte pour créer leur propre entreprise car ils ont un esprit entrepreneurial très développé. Enfin, contrairement aux idées reçues, ils consomment moins d'alcool et de drogue que leurs aînés car ils font très attention à leur image, notamment sur les réseaux sociaux.
Défonceurs connecté. Deuxième question, pourquoi le nom de génération Z?
Eh bien, c'est la suite logique des générations X et Y. Y en anglais, car cette génération demanderait toujours pourquoi ou porterait souvent des écouteurs en forme de Y. Elle rassemble les personnes nées entre 1980 et 1995. Elles ont connu l'explosion d'Internet et notamment du chat et de la webcam. Ce qui les caractérise, ce sont leur soif de pouvoir et leur côté rebelle face à l'autorité. La génération X, elle, rassemble les individus nés entre 1960 et 1980. Ils ont été marqués par l'augmentation des divorces et ils jalousent la génération précédente, les baby boomers, qui ont eu des conditions économiques exceptionnelles.
Dernière question, Vicky. Eh bien, quelle sera la prochaine génération après Z?
Eh bien, ce sera la génération A pour alpha avec les personnes nées après 2010. Les sociologues planchent déjà dessus. Aujourd'hui, une nouvelle génération apparaît tous les 15 ans environ, alors qu'auparavant, c'était tous les 20 ans. La raison est très simple, c'est notre société qui évolue de plus en plus vite. Enfin, les entreprises s'intéressent aussi de très près à ces concepts de génération, car c'est un vecteur d'information très précieuse pour créer de nouveaux produits. Merci Vicky.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous connaissons maintenant la définition de la génération Z. Et donc, j'ai pris dans Culture RH, dans un site internet, quelques petites données. La génération Z en burn-out, un mal-être générationnel désormais documenté. La santé mentale au travail reste à un niveau alarmant en France, selon le 15e baromètre État de santé psychologique des salariés français, publié en novembre 2025 par Empreinte Humaine, et Ipsos, BVA, 47% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Cette proportion progresse chez les moins de 30 ans, donc la fameuse génération Z, dont 55% déclarent être concernés. Le risque de burn-out concerne désormais 32% des salariés avec 12% en burn-out sévère. Donc là, on se trouve devant une génération qui a, on va dire, peut-être... Alors, je ne sais pas. Là, je vais peut-être voir avec Lily qu'elle aura peut-être une idée plus claire que moi, puisqu'elle fait partie de cette génération, qui a été confrontée à, je dirais, le phénomène de pression et d'urgence et de compétition et de concurrence des anciens, mais qui, en même temps, a peut-être eu une réaction par rapport à ça.
Oui, en fait, je pense que ma génération, c'est... On entend souvent dire que la génération Z ne veut plus travailler, mais je pense que c'est pas vraiment ça, c'est qu'on veut travailler différemment, en fait. On a vu pour la plupart de nos parents épuisés, puisque eux faisaient partie de ceux qui luttaient contre l'ancienne génération qui avait prospéré. Eux sont arrivés dans un contexte économique plus difficile. Donc je pense qu'on a vu nos parents s'épuiser à la tâche. Et du moins, moi, je fais partie de ceux qui tentent de travailler autrement, de repenser un peu notre manière de fonctionner.
Oui. Donc, c'est peut-être une génération réactionnelle.
Oui, peut-être. Peut-être. Par contre, je pense aussi qu'on a, pour la génération Z, on a passé le début de notre adolescence, ou du moins notre adolescence, dans la pandémie COVID-19. Je pense que ça a eu un grand impact aussi sur la détresse psychologique de cette génération-là.
Oui.
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ça, effectivement.
Oui.
Donc là, par rapport à ça, on se rend compte que cette fameuse génération Z est vraiment touchée par le burn-out. Je ne sais pas, dans l'environnement dans lequel tu vis, est-ce que tu as des amis de ton âge qui sont touchés?
Oui, oui, j'ai des gens autour de moi qui ont été touchés. Un peu dans tous les domaines, en fait, on est dans une société de performance et de compétition, donc que ce soit dans le milieu de l'école, du travail, du sport, je pense que même dans le milieu de la famille, surtout les réseaux sociaux, en fait, nous poussent à performer et à se montrer toujours meilleur. Je pense que dans tous les domaines, on peut s'épuiser aujourd'hui.
Mmh. Voilà. On n'a pas précisé, Lily, quelles sont les études que tu fais. Ça paraît intéressant dans le contexte.
Ah, peut-être, oui. Alors, je suis étudiante en anthropologie et je commence un master... très prochainement, donc voilà.
Voilà, donc ça t'intéresse tout ce qui peut advenir à l'être humain maintenant, en quelque sorte.
Oui, absolument.
Voilà, ouais. C'est le sujet. Et alors, une autre chose, je ne vais pas aller dans les mystères, mais enfin, on a eu une discussion et on parlait de la façon de travailler. Ben, au Québec, c'est intéressant peut-être de parler de cette façon de travailler.
Oui, eh bien, on est un peu dans une culture, dans la culture américaine, je crois, dans notre manière de travailler. Le travail est vraiment... centrale dans la vie. C'est pas du tout rare de voir des gens travailler entre 40, 50, voire 60 heures semaine. Et moi, ce qui m'a choquée quand je suis arrivée en France et que je commençais à discuter, c'est de me rendre compte que les jeunes en France travaillent pas ou pratiquement pas. Et au Québec, par exemple, c'est tout à fait normal à 14 ou 15 ans commencer à travailler et avoir des horaires réguliers, quoi.
Mmh.
Donc, à la fois à l'école et à la fois le travail, on commence à être sur le marché du travail extrêmement tôt.
Oui, donc, c'est surprenant d'ailleurs.
Oui, et en fait, je pense qu'il y a plusieurs industries qui reposent là-dessus au Québec. La restauration rapide, même la restauration régulière et tout, les épiceries, tout ça, tout repose un peu sur le travail des plus jeunes et notre système est pensé comme ça, du coup.
Parce qu'il y a un côté économique.
Oui, je crois que oui. Si les jeunes ne travaillaient pas actuellement au Québec, je pense que... Il y a quelques structures qui s'effondreraient parce que la restauration rapide, les épiceries, les petits magasins comme ça sont tenus principalement par des employés entre 14 et 18 ans.
Parce que vous avez le droit de travailler à partir de 14 ans.
Oui, à partir de 14 ans, c'est légal, oui.
Oui, donc je trouvais intéressant, on voyage en restant sur place.
Hein.
Oui,
oui, oui.
C'est intéressant, Lia, qu'est-ce que tu en dis? Je vois tes yeux s'écarquiller.
Ben, je ne suis pas sûre que ce soit la place d'un enfant de 14 ans de travailler, même si ça peut développer des compétences en lui. Mais bon, on est en pleine construction à ce moment-là. Et puis, si tu cumules déjà à 14 ans un emploi et tes études, ben, je pense que tu as des prédispositions
à être
au burn-out.
Oui, bien sûr. Ça, exactement.
Après, peut-être économiquement, ça, c'est plus rentable pour les entreprises. Peut-être qu'ils sont moins payés, je ne sais pas.
Alors, la plupart du temps, effectivement, les plus jeunes sont au salaire minimum.
Oui.
Mais le salaire minimum est le même que tu aies 14 ans ou 40. Cependant, c'est vrai que, par expérience personnelle, on est beaucoup moins alerte sur les petites fraudes qu'on se fait faire. Parfois, il manque de l'argent sur nos payes et tout, parce que justement, c'est beaucoup plus facile un peu d'abuser des enfants qui sont encore un peu naïfs sur leur façon de gérer. Mais globalement, je pense que les gens ont malgré tout des bonnes expériences de travail. Puis ça amène malgré tout des compétences et une responsabilisation.
Oui, c'est ça.
Oui, et puis en même temps, si j'ai bien compris, c'est nécessaire pour tout étudiant, s'il veut continuer, d'avoir quelque chose économique qui l'aide.
Oui, j'avoue que, encore une fois, là, je parle pour ce que je connais du Québec. Je ne suis pas non plus grande spécialiste, mais je pense que, de manière générale, on quitte la maison de nos parents beaucoup plus tôt qu'en Europe. Donc, la plupart des gens qui sont à l'université sont en appartement déjà, même s'ils vivent dans la ville où habitent leurs parents. Donc, oui, on est autonome plus rapidement et donc financièrement, c'est nécessaire, en fait, d'être autonome financièrement.
C'est intéressant parce que c'est vrai, je dis toujours qu'on entend parler des choses par les réseaux, par les actualités, par autres, mais c'est toujours très flou et très hypothétique, hein, on va dire ça comme ça. Tandis que là, c'est intéressant et j'ai été surprise que le Canada soit dans ces catégories de pays.
Oui.
Ça me surprend, moi.
Oui, c'est vrai qu'on les voit plutôt... moi, je ne sais pas, j'ai une vision bienveillante du Canada. Je ne sais pas pourquoi, où on se serre les coudes, on s'aide les uns les autres. Peut-être que c'est erroné, mais je ne sais pas, c'est cette vision un petit peu comme ça que j'ai. Après, est-ce que est-ce que c'est possible de travailler jeune tout en étant dans un endroit où on se sent bien et respecté, et juridiquement aussi respecté, certainement, peut-être.
Et je pense qu'il y a quelque chose aussi, bien sûr, il y a du mauvais, il y a du bon dans tout, mais ce qu'il y a de bon dans cette manière de travailler, je trouve, c'est la confiance, en fait, qui est accordée aux jeunes. Parce que j'ai l'impression en France que si vous n'avez pas de diplôme, c'est impossible presque d'entrer sur le marché du travail ou d'avoir une expérience de travail. Mais du coup, au Québec, du haut de tes 15 ans, tu arrives avec ton CV sur lequel il n'est absolument rien marqué. Et on t'engage parce qu'on te fait confiance et on te donne une chance, en fait. On te donne une chance de faire tes preuves. Mais justement, le fait de devoir faire tes preuves vient avec une pression.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, on parle également de la génération Z qui apparaît comme l'une des populations les plus exposées à cette dégradation, donc de santé mentale. Selon la même étude, 40% des moins de 29 ans déclarent vivre une solitude sociale au travail. Je ne sais pas, ça. Je ne vois pas.
Ouais,
en quoi est-ce qu'il y a un sentiment d'isolement? Ils disent que ça concerne pratiquement des salariés déjà fragilisés. Mais c'est vrai que notre principe en France est tellement différent. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, on a des tanguis, nous.
Et encore, 25 ans, c'est beau, hein?
Oui, nous, on a des tanguis, en fait. Nous, on n'a pas des travailleurs à 14 ans. Nous, on a des tanguis, nous. Et en Suisse, moi qui ai vécu 40 ans en Suisse, c'est effectivement entre le Québec et la France. Il n'y a pas vraiment de tanguis. Et les gens ne commencent pas à 14, mais à 16 ans, à travailler quand ils font leurs études. Et puis, c'est valoriser le travail manuel. Et il y a quelque chose de l'ordre d'indépendance aussi rapidement de la vie des parents. Donc, c'est un peu différent. Comme quoi, chaque...
Après, en France, quand tu travailles pendant tes études, j'ai l'impression que c'est des emplois très précaires ici, qui ne s'adaptent pas forcément au rythme de l'étudiant, etc. Peut-être que dans des pays comme le Canada, où c'est plus standard en fait, de le faire, peut-être que c'est plus aménagé et plus confortable pour le jeune. Enfin, j'en sais rien, je parle de quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais non, disons qu'ici, quand on choisit de travailler en même temps que de faire ses études, c'est presque un sacrifice, quoi. On sait qu'on ne va pas beaucoup dormir, et on aura peut-être moins de chance. En tout cas, c'est la vision qu'on a de ça ici, c'est qu'on a moins de chance de réussir ses études de façon plus safe, plus concentrée en travaillant, quoi.
Alors là, justement, cette étude de culture RH, les données internationales confirment cette tendance de fond. Selon une enquête mondiale citée par Forbes, en 2025, 83% des salariés de la génération Z déclarent se sentir en situation de burn-out. 83%, un niveau supérieur à celui des autres générations. Aux États-Unis, un quart des salariés connaissent un épuisement professionnel avant l'âge de 30 ans. Et ces chiffres traduisent un décalage croissant entre les attentes des jeunes actifs et la réalité du travail. Alors, je ne sais pas très bien où ça va. Maintenant, on ne peut pas faire une généralité. Hein.
Non, tout à fait.
Ça me paraît difficile de faire une généralité. Hein. Là, on va écouter. Alors, une petite chanson que je trouve assez amusante de Barbara Pravi. Hein, c'est oui. Lily qui m'a donné le nom. Et qui montre un peu tous les espoirs fabuleux que peuvent avoir des jeunes.
Je suis un homme. Exister. Je suis une femme. Exister. Comme toi, je me débats pour, aux yeux de tous les autres. Exister. Pitié qu'on me regarde. Exister. Je sais pas trop où je vais, exister. Ni même comment je vais, exister. Mais je vais y arriver. Exister. Papa, maman, voyez. Exister. Pitié, admirez-moi. Exister. Là devant mon miroir, exister. J'ai de grandes ambitions. Exister. Moi, je me trouve pas si pire. Exister. J'ai un joli costume. Exister. Une belle maison. Exister. Une grosse voiture. Je me suis construite tout seule. J'ai besoin de personne. J'ai les poches pleines d'oseille. Au boulot, je suis le roi. Oh oui, j'ai tous les droits. Je te parle mal et alors? Rappelle-moi, t'es qui toi? Baisse les yeux devant moi. Et droit de mort ou de vie, qui pourrait m'arrêter? Oh, et puis si je peux, dans les livres d'histoire, oui, c'est ça que je veux. Devenir votre dieu à tous, qu'on m'admire mon pays, de n'importe quelle façon, à tort ou à raison. Et quel qu'en soit le prix, j'écraserai mes semblables de mes petites mains. J'avilirai les femmes, je trahirai mes amis de façon. T'étais pas mon ami, j'ai menti. Oh non, j'ai pas de remords, je m'en fous, j'ai de l'argent. À quoi ça sert la vie si ce n'est pas pour faire toutes mes idées folles et toutes mes fureurs? Oh, je pourrais tuer pour. Je n'ai ni foi ni loi, je ne ressemble à personne. De qui veux-tu que j'ai peur? Je sais même plus pourquoi je vis. Je sais même plus pourquoi je veux. Je sais même plus pourquoi je crie. Je sais même plus pourquoi je veux. Je veux exister. Je veux exister. Je veux exister. Je suis prête à mourir pour. Et dire n'importe quoi pour. Et pourquoi la morale? Je vais régner en maître. En grand maître du monde. Les enfants à l'école, ils apprendront mon nom. Je dirai que j'ai gagné. Ils apprendront mon nom. Je dirais que j'ai gagné. Pendant que vous peinerez pour nourrir vos familles, je vous ferai faire la guerre à grands coups de singerie. Vous êtes mes petits pantins, des ridicules petits pantins. Grâce à vous, je suis riche, vous remplissez mes poches. L'argent coule dans mes mains, coule. Je tuerai vos enfants pour. De toute façon, j'ai plus de famille. De toute façon, je sais pas qui vous êtes. Et j'en ai rien à foutre. J'ai l'argent, le pouvoir. J'ai l'argent, j'ai la gloire. Je sais même plus pourquoi je vis. Je sais même plus pourquoi je veux. Je sais même plus pourquoi je crie. Je sais même plus pourquoi je veux. Mais au moins moi j'aurai. Mais au moins moi j'aurai. Mais au moins moi j'aurai. Exister, exister, exister.
Voilà, Voilà, chères auditrices et auditeurs, intéressant, exister.
Incroyable ce son.
Est-ce
merci
que
beaucoup.
Avoir de l'argent représente pour la génération Z exister?
Je pense que ça dépend. Je pense qu'actuellement, on est dans un monde très polémique, donc qui est très contrasté. Il y a un peu de tout dans les extrêmes. Alors, je pense qu'il y a l'extrême de ceux qui, justement, pour eux, c'est l'argent exister, c'est la consommation qui demeure dans la surconsommation. Je pense aussi, cependant, qu'il y a un mouvement actuellement de décroissance, de plus en plus de jeunes et de vieux, en fait, de tous âges. Mais je crois que la génération Z aussi s'inscrit là-dedans, dans le désir de décroître tranquillement et d'exister au-delà du système qu'on a créé. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais assurément, l'envie d'exister est partagée par tous.
Voilà. Donc, ça m'intéresse parce que j'avais ce sentiment qu'il y avait une partie quand même, puisque les woofers, on reçoit pas mal qui ont cet âge-là, qui voulaient faire de la décroissance ou en tout cas, le nombre qu'on a reçu, même en invité, qui voulait faire une année de sabbatique pour voir où ils en étaient, reprendre les choses à zéro. Donc, il me semblait qu'il y avait ça. Et il y a, à contrario, certainement, une partie qui est peut-être poussée par les parents ou par la famille à exister par le côté financier.
Oui, puis je pense qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux pousse beaucoup la consommation et tout. Les influenceurs qu'on voit avoir des vies de rêve sur des yachts ou des immenses villas, les jeunes sont exposés à ça et donc c'est normal aussi qu'il y ait une certaine proportion de jeunes qui se projettent dans une vie comme ça.
Oui, parce que c'est intéressant aussi de comprendre comment vous fonctionnez, parce que justement, je trouve ça très intéressant quand tu parles des réseaux sociaux où il y a des gens, voilà, des influenceurs. Parce que nous, enfin, toi peut-être, hein, Lia, mais moi, toi, je ne suis pas tellement au courant de tout ça.
Ben c'est vraiment un espèce de catalogue d'idéalisme utopique qui est peu représentatif en plus parce que c'est des cas complètement isolés, on ne sait même pas comment ils font leur argent, c'est un petit peu flou hein, tout ce qu'il y a derrière, mais ça envoie du rêve parce que c'est beaucoup de bling bling, beaucoup d'argent en masse et quand on voit ça toute la journée sur les réseaux, peut-être que les jeunes ils se disent que c'est facilement atteignable en fait, ils se donnent moins les moyens de faire autre chose, de réfléchir à autrement, ils baignent un petit peu là-dedans. Mais encore une fois, je pense qu'il y a ça et son contraire. Quoi,
aujourd'hui. Oui, parce que la génération Z, c'est donc, si on reprend les choses, c'est 16 ans, 30 ans.
Oui.
De maintenant.
Oui, 16 ans, 30 ans. Je crois que c'est ça. Oui.
Voilà. Donc effectivement, 16 ans, pour ce que je connais de jeunes de 16 ans, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est influenceur. Effectivement, ça se positionne là-dedans. Et d'un autre côté, il y a deux points, je dirais, à soulever dans cette génération Z, c'est avoir été confronté au Covid, qui est quand même un choc extrêmement violent pour eux, qui avaient une espèce de liberté, large, hein,
ah oui.
De vie. Oui. Et puis l'IA, alors pas toi l'IA, hein. Non, l'IA, L'IA. Oui. Non, pas L-Y-A, hein, non. Chères auditrices et auditeurs, nous ne sommes pas en train de parler de notre directrice des programmes. Non. Et donc, le burn-out est aussi... le Covid et aussi la santé mentale parle de ce problème de l'intelligence artificielle. La santé mentale au travail se retrouve au croisement de deux mouvements concomitants. Une fatigue physique largement déclarée et une transformation technologique rapide portée par l'intelligence artificielle. Et donc là, on parle vraiment de difficultés par rapport à ces nouveaux outils, à ces nouveaux phénomènes qui apparaissent.
Oui, puis je pense que ça fait peur, en fait. Je suis absolument pas une spécialiste de l'IA, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens... En fait, encore une fois, c'est très polarisé. Je pense qu'il y a ceux qui voient là-dedans l'avenir et qui veulent y investir le temps et l'énergie. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur parce que ça impacte beaucoup de métiers malgré tout. Il y a qui ont peur soit de perdre leur métier, que leur métier soit totalement adapté par ces nouvelles technologies. Donc oui, puis justement, le burn-out, c'est un peu justement la compétition avec tout, mais Mais là, c'est impossible presque de compétitionner avec des technologies comme ça. Donc, peut-être que ça augmente même la détresse chez les gens.
Je vais poser une question un peu surprise.
Oui.
À quel point tu utilises l'intelligence artificielle, toi? ChatGPT ou
ben,
autre?
En fait, malgré moi, je l'utilise puisque maintenant, il est intégré dans Google ou dans les... Maintenant, il est intégré à peu près partout. Mais par exemple, je n'utilise pas ChatGPT, je l'utilise quand il est intégré malgré moi dans les réseaux et les services, mais je ne l'utilise pas volontairement, du moins.
D'accord.
Parce qu'écologiquement et socialement, je ne veux pas, mais en même temps, je pense que... Il faudrait que je m'y intéresse davantage parce que je pense qu'on ne pourra pas y échapper.
Oui, quoique je trouve que c'est très limite. Dernièrement, il y a eu un incident chez Amazon. Ils ont tout mis des robots, ils ont licencié 15 000 personnes pour organiser les envois et tout. Et puis, il y a un robot, une intelligence artificielle, qui a déclaré que tout allait de traviole, qu'il fallait tout recommencer à zéro, qui a arrêté complètement la production, qui leur a fait un bug énorme et un crack qui leur a coûté une fortune parce qu'il avait décidé de tout remettre à zéro. Donc, je dis toujours, l'intelligence artificielle, il faut la prendre avec des pincettes parce que, OK, on a l'impression que ça nous dépasse, que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, nous, en tant qu'humains, et pourtant, c'est construit par des êtres humains.
Oui, c'est ça qui est fou. Puis il y a tellement de cas, de plus en plus de suicides, de gens de l'intelligence artificielle qui a poussé des jeunes au suicide. Il y a de tout, là. Il y a des cas épouvantables de déraillement de ce système-là. Et en même temps, je pense qu'il va demeurer avec nous. Je pense que l'IA, on s'en débarrassera pas tout de suite. Alors, vaut mieux peut-être dompter la bête et apprendre à l'utiliser intelligemment que de s'en méfier et de ne pas y toucher.
Oui.
Il faudra amener une éthique, en fait, autour de ça. Et voilà, une déontologie. Mais moi, je suis toujours surprise par les gens qui me disent « J'ai discuté avec l'IA hier soir parce que je n'allais pas bien. »
Oui. Ah oui. Alors là...
Ça existe vraiment, fait. Oui. Moi, au début, je croyais que c'était une blague.
Oui.
Mais non, en fait, je pense qu'il y a tellement de cas de personnes qui sont dans le désespoir, qui ne trouvent pas de solution et qui se dirigent instantanément vers ça, comme on pourrait trouver notre refuge dans les réseaux sociaux, justement, en regardant des vies idéales, par exemple. Là, on se tourne vers une intelligence artificielle qui va... J'ai essayé la dernière fois par curiosité.
Ah oui, voilà.
Et c'était vraiment bizarre. Hein. C'est très... ambigu, quoi. T'arrives pas vraiment à cerner ce qui se passe à ce moment-là. C'est déroutant, en fait. Je pense que notre cerveau, il est pas préparé à ce genre de choses encore. Hein.
Oui, mais là, on va penser, alors on n'a pas fait une émission là-dessus, mais à la génération A.
Oui.
Bah oui.
La suivante, celle qui est entre 1 et 15 ans maintenant. Que va-t-il se passer?
Nous, on fait beaucoup d'éducation aux médias ici à l'information parce que ça a été le gros boom des fake news, etc. Oui. Je pense que dans quelques années, il n'est pas impossible que l'on nous demande d'éduquer les jeunes, entre guillemets, de les sensibiliser à ces nouvelles technologies et ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en attendre ou non, quoi.
Oui.
Et ça ne serait pas déconnant de le faire, je pense.
Non, je pense que... Alors, je reviens à ce qu'a dit Lily. Personnellement, sur Google, pas sur mon ordinateur parce que je suis sur Ecosia, donc ça ne marche pas, mais sur mon téléphone... C'est vrai que quand je pose une question, j'ai des réponses d'IA. Alors, ce que j'ai remarqué, parce que comme je fais partie des vieux de la vieille, un peu récalcitrant, c'est que la même question, il y a 3 réponses différentes. Ça n'a pas de sens.
Et plus tu vas lui poser cette question-là, et plus il va t'amener une réponse différente. Ça dépend comment tu as commencé à poser ta question. Et tu peux retourner le lendemain en posant la même question. Il va avoir une autre réponse parce qu'il y aura eu des informations déjà échangées avec cette intelligence artificielle qui va étayer son argumentation d'une autre façon. Et en fait, c'est quelque chose qui se nourrit seconde après seconde, cette chose-là. En fait, c'est une chose qui évolue très, très vite. Ça nous dépasse, en fait. C'est une évolution, c'est une temporalité.
Le point, je dirais, d'achoppement que je trouve à ce système, c'est que ça ralentit l'humain dans la réflexion et dans l'analyse des situations et qu'on va s'appauvrir parce que c'est comme un muscle. Hein. Il va se dessécher, parce qu'il n'est plus utile. Et donc, on va être dans des... avec des personnes. Alors justement, j'avais entendu ça dernièrement. Alors la génération alpha, apparemment, on a vu une régression de 20%.
Oui, je l'ai vu aussi, ouais. Des fonctionnalités du cerveau. Hein. Ça sera la première génération
qui régresse.
À ne pas avoir une évolution.
Ça fout les boules. Hein.
Ouais. Alors, si on est complotiste, on pourrait penser que ce n'est pas anodin.
Oui, voilà. Maintenant, je pense que c'est très personnel et que c'est pas, on ne peut pas prendre ça comme des généralités parce qu'il y a des familles qui entretiennent autre chose. Oui. Il y en a qui entretiennent des choses malsaines, puis il y en a d'autres, et ça a toujours existé.
Mais tu vois, par exemple, avec l'exemple du téléphone portable, beaucoup ont été les familles qui ont lutté le plus possible pour éviter à leurs enfants d'avoir accès à cet outil très jeune. J'en vois encore quelques-uns qui arrivent seulement au collège avec le téléphone, mais il y a beaucoup d'enfants maintenant qui ont un téléphone 6-8 ans, enfin c'est quand même une aberration. Ouais. Peu importe l'utilisation qu'ils en font, ils ont l'outil entre les mains, et ça a été comme des luttes, tu vois, un espèce de militantisme anti-téléphone portable. Et au final, aujourd'hui, c'est complètement démocratisé. Tous les jeunes en ont. S'ils en ont pas, sont presque victimes de discrimination. J'enlèverai le presque parce que je pense que c'est... Oui, oui. Voilà. Et je pense qu'un jour, ça sera pareil pour les nouvelles technologies, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis.
Alors justement, ils parlent de l'intelligence artificielle et ils disent que c'est un monde du travail dans lequel l'épanouissement revendiqué cohabite avec des marqueurs d'usure. C'est-à-dire qu'on se rend compte que comme on a moins appel à l'humain, qu'on a plus appel à des robots, eh bien, il y a un sentiment d'usure. C'est-à-dire que les gens n'ont plus motivation, intérêt, épanouissement.
Peut-être t'as moins de sens en plus dans ce que tu fais quand tu vas aller demander à l'intelligence artificielle de trouver la réponse plutôt que d'avoir la satisfaction de t'être formé, d'avoir pris conseil auprès de tes pairs, etc. et de t'être dirigé vers une intelligence artificielle. Après, ça dépend de la façon dont on l'utilise, en fait, hein, tout simplement.
Oui, parce qu'ils disent qu'il y a aussi un problème dans, justement, ben, la génération Z, c'est quand même la génération qui est en train de se lancer dans le travail maintenant. Hein, oui. On est bien d'accord. Eh bien, entre le fait qu'il y a un engagement qui est demandé, alors on demande à des gens de l'expérience alors qu'ils n'ont jamais travaillé, on demande à ce qu'ils s'engagent corps et âme, week-end et vacances compris, et en même temps, on leur donne des choses qui les fatiguent déjà, donc ils sont déjà fatigués et ils doivent faire un engagement alors que c'est un petit peu comme ils n'ont pas envie de démarrer, quoi. Est-ce que les jeunes, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on écoute ça parce que la génération Z en burn-out, il y a un petit accent canadien là qui m'a l'air. Enfin, je pense que c'est celle-là, je ne suis pas sûre. Mais les générations Z en burn-out.
Les gens vivent beaucoup de souffrance.
Il y a plein d'autres facteurs de stress qu'on ne vivait pas avant.
Les milléniaux puis les Gen Z, c'est des générations qui vivent beaucoup de souffrance.
On parle souvent de la génération Z et milléniaux. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a assisté à la naissance d'Internet. Pour eux, il y a vraiment un avant et un après. Il y a l'autre génération, la génération Z, qui, elle, est née carrément avec Internet. Mais il y a quelque chose qui unit ces deux générations-là.
Il y aura autant de burn-out qu'il y a de patients.
On a beaucoup valorisé la réussite professionnelle. Regardez votre boîte courriel, vous dites « Ah, j'ai 100 messages ».
Ce sentiment-là collectif qu'on a de se sentir épuisé, de se sentir souvent stressé.
Le documentaire Génération Burnout sort aujourd'hui sur Crave.
À l'occasion de Belles Causes pour la cause.
J'ai décidé d'aller sonder les employés de Bell pour voir quelle était leur relation avec la santé mentale.
Gen Z ou Millennials?
Millennials. Sur la peau des fêtes, mais Millennials.
Je pense que je suis Gen Z.
Moi aussi, je pense que t'es Gen Z.
La pression d'être omniprésent, à répondre tout le temps, les notifications qui se suivent.
Il y a aussi l'actualité qui est difficile. On a l'impression que tout va toujours plus vite, on a moins d'emprise sur les choses.
Je me souviens des années, je me disais, comme mes amis, je veux être maman, avoir une maison avec une piscine, avec un gros SUV devant.
Je voulais créer un documentaire qui apportait un message d'espoir, mais aussi qui peignait un peu l'état réel de la situation. Le burn-out, c'est pas forcément tout de suite des cas drastiques, c'est une espèce de morosité qui touche tout le monde, un épuisement de travail, un épuisement de vie.
Cette tendance-là à un peu médicaliser la souffrance, elle est quand même de plus en plus présente. Là, moi, je me permets de le dire en remarquant, entre autres, que la consommation d'antidépresseurs ou même de psychostimulants chez les jeunes, elle est à la hausse là, année après année. Est-ce qu'on ne peut pas tenter de mettre l'accent un petit peu plus avec d'autres solutions qu'on a dans la vie de tous les jours qui sont accessibles?
L'art et la culture permet réellement et scientifiquement prouvé d'aider. Quand on a tous été enfermés chez nous, on a consommé de la culture, des livres, des films, de la musique.
Quand je me sens un peu overwhelmed, je fais un peu d'activité, je bouge mon corps un peu, puis je trouve ça l'aide beaucoup.
Do not disturb sur mon téléphone est activé très souvent à partir de 5 heures.
Quand ça va mal ou quand on se sent moins bien, pas le garder en dedans parce que ça peut juste empirer.
Parler de ce qui ne va pas, ça aide à mettre des mots sur ce qui ne va pas, justement.
On devrait être autant à l'aise de parler de la santé mentale que de parler de son mal de dos.
À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.
Voilà, chers auditrices et auditeurs, on se rend compte que cette génération, effectivement, il y a de la morosité. Je ne sais pas, dans les amis que tu as, parce que c'est tous la même génération, est-ce que vous vivez, il y a des cercles où c'est plus morose, et des cercles où c'est moins morose, ou est-ce qu'il y a quelque chose de global?
Oui, ben j'avoue que ça dépend un peu des cercles. Moi, je me tiens quand même beaucoup avec les gens un peu dans des cercles militants, donc il y a peut-être un peu plus de ferveur à changer les choses. Mais même à travers les militants, il y a des burn-out parce que le militantisme est épuisant. Vous savez certainement de quoi je parle.
Oui.
Mais oui, j'avoue qu'à travers les jeunes, de manière générale, c'est vrai qu'il y a une certaine morosité, puis... puis on revient aux réseaux sociaux. Je trouve que c'est la base un peu de notre comparaison. On voit tout le monde avoir des vies parfaites et un peu lissées par les filtres Instagram et tout. Et donc, dès qu'on n'est pas en train de vivre un moment incroyable, on se dit « Ah ben, j'ai raté ma vie ».
C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus besoin d'adrénaline et de cortisol, puisque la fatigue, l'épuisement, c'est de la consommation adrénaline et cortisol, de laquelle on peut devenir addict, comme la dopamine d'ailleurs. C'est des addictions. Et donc, s'il n'y en a pas assez, on a l'impression d'avoir raté sa vie.
Oui, ben peut-être, oui.
Donc, c'est quand même un changement de paradigme dans une évolution très rapide, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, depuis la nuit des temps et la préhistoire, on avait avancé, mais gentiment, quoi. Et maintenant, on avance très rapidement, puisque dans le cerveau des gens, c'est déjà inclus que le phénomène de la toupie. Il faut tourner pour être vivant. Si on s'arrête, on tombe, en gros.
Oui, oui, absolument. Puis comme il disait dans l'extrait, on est toujours surstimulé, les courriels, les textos, les notifications, tout va extrêmement vite. Je pense que c'est difficile de ralentir, parce que ralentir, c'est aller à contre-courant, en fait.
C'est ça, aller en contre-courant. Est-ce que les jeunes peuvent aller à contre-courant? Ça, c'est une question, parce que, évidemment, nous, les vieux, on dit ça, mais on n'est pas dans le bain, on n'est pas formaté comme ça, donc on ne peut pas réagir à leur place. Et est-ce qu'eux peuvent aller à contre-courant? Alors, ce que je trouve peut-être... Allez, on va dire, le plus positif, qui va peut-être surprendre, c'est que justement, ils ont des diagnostics de burn-out clairs, nets, précis, hein, ça, enfin, assez clairs. On en parle en tout cas, on en parle clairement. Et c'est peut-être de là que rebondira une génération avec une autre manière de fonctionner.
Oui, peut-être. Par contre, je pense qu'actuellement, comme aussi c'était dit dans l'extrait, on en parle beaucoup, mais on le médicalise beaucoup aussi.
Ah, ça, c'est ennuyeux, oui.
Donc, notre génération, moi, à travers mes amis, il y a énormément de gens qui sont médicamentés sous antidépresseurs ou psychostimulants. Et voilà, donc on est hyper médicalisés.
Oui, mais psychostimulants, ça me perturbe, ça.
Moi aussi.
Pourquoi psychostimulants alors qu'on est déjà surstimulés?
Ah oui, ben oui.
Ok, donc toujours plus loin, quoi. Tu vas pas bien, t'es en burn-out, t'as besoin de ralentir, tu te sens un peu mollasson, on va te stimuler pour que tu arrives, quoi.
C'est ça.
Si tu tires la corde jusqu'au bout, quoi.
Voilà.
Ok.
Mais quand on parle de morosité, là, on a un petit extrait qui fait un peu les frissons. Moi, si je ne me trompe pas. Parce que là, je suis pas au clair dans mes audios.
Ça fait 3 mois et demi que je suis au chômage, et là, je vous avoue, j'en ai un petit peu marre.
Mais... Le diplôme de master ne te garantit plus le fait d'avoir un travail.
La vérité, c'est que quand certains disent que les études ne servent à rien, c'est souvent que ça les arrange d'y croire.
C'est la crise sur le marché de l'emploi depuis plusieurs mois, et on dirait que ça ne s'améliore pas. L'INSEE vient de publier des données qui confirment ce que beaucoup de personnes vivent depuis de longs mois, le marché du travail en France est en train de se retourner complètement.
Tout le monde, d'après Alabachou aussi, le travail, personne n'a d'étal, personne n'a de taf, personne recrute. Il n'y a même personne qui veut donner du travail à quiconque. Regarde-vous.
Il y a du travail à Paris partout, c'est les jeunes qui ne veulent pas travailler pour 1006. Alors moi, je serai le plus grand avocat des jeunes en ce moment, entre 18 à 30 ans. Voilà, tout simplement.
Vous m'avez berné, on m'a dit ouais, l'intérim ça paye, etc. Ça paye pas. Eux-mêmes, ils n'ont pas de mission, je les appelle tous les jours, ils me disent « Ah, c'est chaud, on n'a pas de mission, etc. » Ils savent même pas quoi faire.
L'argent, ils trouvent où, en fait, je comprends pas. Parce que là, maintenant, là, moi, je suis en vacances, tu vois. Je trouve pas de taf. Ça fait 3 mois que je cherche, je ne trouve pas de taf.
Là, ça fait 1 mois que, genre, je postule à tous les postes. Mais en fait, vous savez pas à quel point, genre, c'est compliqué de trouver un boulot. Parce que les gens qui disent « Non, mais... je comprends pas les gens qui travaillent pas, qui trouvent pas de travail. » Mais en fait, c'est hyper dur de trouver du travail. Je suis à 2 mois de chialer. Tellement, je suis dégoûtée.
Nous sommes en guerre.
Au troisième trimestre 2025, le taux de chômage en France s'élève à 7,7% de la population active, soit environ 2,4 millions de personnes sans emploi. Le diplôme et l'expérience comptent beaucoup. Sans diplôme, c'est plus difficile. Sans expérience, c'est encore plus difficile. Les recruteurs demandent souvent de l'expérience pour un premier emploi. C'est un vrai problème structurel en France, surtout pour les jeunes, les personnes en reconversion, les chômeurs de longue durée. De plus, les contrats sont souvent précaires, CDD courte durée, intérim et le temps partiel.
Voilà, chères auditrices et auditeurs. Donc cette difficulté, c'est la chaise musicale. Il y a 15 personnes et il y a 2 chaises, en gros.
Oui.
Et puis, je reviendrai sur le Canada, qui est en fait le Québec, qui en fait a peut-être une très très belle façon de voir les choses, parce que ça donne de l'expérience à ces jeunes de faire des petits jobs.
Oui, par contre, en fait, je pense que c'est en train de changer. Justement, au Québec, par exemple, moi, ma petite sœur, c'est une alpha, donc ouais. Elle a actuellement 15 ans, ce qui, au Québec, est à peu près l'âge pour commencer à trouver un petit boulot. Et on se rend compte qu'il y a moins, le Québec est en train de changer, de devenir un peu comme la France, parce que je me rends compte que ma petite sœur, elle a beaucoup plus de difficultés à trouver un premier boulot que moi, j'en ai eu. Donc ouais, les systèmes sont en train de se renverser peut-être et il va falloir trouver des solutions parce que... Puis c'est intéressant d'entendre cet extrait parce que le fait qu'il y ait peu de postes et beaucoup de postulants, ben ça augmente en fait la pression et la compétition. Tout le monde doit surperformer pour avoir un dossier béton, pour être convaincu d'avoir le poste. Mais donc tout le monde s'épuise à tenter d'avoir un dossier béton.
C'est ça. Donc je pense qu'on va de plus en plus vers le burn-out de plus en plus jeune, hein, déjà. Oui. Nous, prochainement, l'association Ralentir pour vivre, depuis l'année dernière, on va parler dans des écoles et on essaye de sensibiliser les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et on se rend compte qu'ils sont déjà plus ou moins touchés. En tout cas, avec soit les parents, comme tu disais tout à l'heure, soit la famille, soit eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus parce que ce système, il s'enfonce dans la compétition, dans la concurrence, dans le culte de l'urgence, dans la manie d'évaluation, dans tous ces points qui font des pressions.
Oui, totalement.
Ouais. C'est donc un petit peu difficile à vivre. Pour la génération Z, elle rebondira, je pense. Maintenant, c'est les alphas où je me ferai un petit... c'est peut-être personnel, hein, je me fais un peu de soucis parce que eux, est-ce qu'ils ne sont pas plus démunis du fait qu'ils sont vraiment nés à la sauce réseau?
Oui, mais en même temps, je pense qu'ils sont beaucoup moins démunis que nous face à ces technologies-là, puisqu'ils ont grandi avec, ils les comprennent, ils les connaissent, ils les maîtrisent. Maintenant, du moins, beaucoup mieux que moi ou que les autres générations. Et je pense que comme toute génération, ils vont savoir rebondir. Si la génération Z commence déjà à repenser vers la décroissance, peut-être que cette génération-là va revenir dans cette mouvance aussi.
Je pense.
On verra.
Puis en plus, entouré de gens qui sont en burn-out, c'est quelque chose d'important. Alors par contre, j'ai quelque chose de plus joyeux, on va dire ça comme ça, joyeux, j'en sais rien, joyeux ou pas joyeux. Des articles qui sont... Et je suis tombée sur 4 habitudes anti-burnout à mettre en place en 2026. Intéressant.
Ah ben c'est pratique.
Voilà. J'aime bien finir par une touche plus joyeuse. Alors, on parle de protéger vos 90 premières minutes quand vous arrivez au travail. Le problème du mode réaction, vous ouvrez votre ordinateur, première chose que vous faites, vérifiez vos mails, puis Slack, alors je sais pas ce que c'est, puis Teams. En 15 minutes, vous avez déjà 3 urgences prioritaires à gérer. Félicitations, vous venez de donner le contrôle de votre journée aux autres. C'est ce qu'on appelle le mode réaction. Et selon une étude de l'Université de Californie, Irvine, menée par Gloria Mark, une fois interrompu, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver sa concentration initiale.
Ouh là là.
J'y pense tous les jours quand je m'enlève mes mails et tout. Après, je pose, puis je me dis, bon, dans 23 minutes, je vais retrouver ma... Et c'est vrai.
Ah ouais, 23 minutes.
Après, cette nuit sur l'écran.
Ok.
Donc, c'est pour ça... Mon téléphone, c'est sous silence et j'ai 2-3 périodes dans la journée où je relève et je sais que j'ai 23 minutes après.
Ouais, malheureusement, il faut les avoir, les 23 minutes.
Donc, 4, bah, oui, voilà.
Wow.
4 heures, c'est le temps de concentration perdu par jour si vous êtes interrompu 10 fois. Faites le calcul, si vous êtes interrompu 10 fois, et soyons honnêtes, c'est plutôt 20, vous perdez l'équivalent de 4 heures de travail concentré, 4 heures où vous êtes techniquement occupé mais où vous ne produisez rien de substantiel. Votre cerveau n'a pas la même énergie cognitive tout au long de la journée. Les recherches en chronobiologie montrent que nous fonctionnons par cycle ultradien de 90 à 120 minutes avec un pic de performance cognitive dans les premières heures après le réveil. Concrètement, ça donne quoi ? Arrêtez de vérifier vos mails dès le réveil. C'est non négociable. Les 90 premières minutes de votre journée de travail sont réservées à votre priorité stratégique, celle qui fait vraiment avancer vos projets, celle que vous n'êtes jamais quand vous aurez le temps. Alors, pas de réunion avant 10 heures. Oh, ça me fait penser à quelqu'un, ça.
Ben oui, Catherine qui est non-verbale jusqu'à 10 heures, il faut le savoir.
Alors, il y a des woofers qui ont de la peine, il y en a qui ont... Et donc, je croise les gens à la cuisine, au café, je fais un namasté, je me penche jusqu'à la terre. Mais je suis non-verbale avant 10 heures.
Ah non, il ne faut rien qui arrive avant 10 heures, parce qu'elle est non disponible.
Non, voilà. Et puis même quand je suis disponible, je suis cringe, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas bon, hein. Pas de notification. Mode avion sur le téléphone. Alors, mon mode avion est mis le soir à 7 heures et il se rouvre à 10 heures.
Ah, oh, ok.
Voilà. Porte fermée ou casque anti-bruit si open space. Un seul projet, celui qui compte. Bon, donc je trouve ça assez amusant. Voilà, il paraît qu'on serait 5 fois plus productif que la moyenne si on respecte ça.
Personnellement, quand je fais une émission, un live à midi que moi j'anime, je n'arrive pas à la radio avant mon live. J'arrive à la radio une demi-heure avant mon live et personne ne me parle, quoi. C'est vrai que je suis un peu comme toi.
Ben oui, puis j'arrive souvent en avance. Moi.
Oui, oui.
Parce que le temps que je pose, tout ça, et après, il faut que je me pose au moins 5 minutes avant pour me concentrer. Se fixer un bloc de concentration chaque jour non négociable. Vous pensez être un bon multitasking. Vous ne l'êtes pas, personne ne l'est. Le multitasking est un mythe marketing. Ce que vous faites réellement, c'est du task switching. Passer rapidement d'une tâche à l'autre, il faut que je me concentre pour ça. Et selon une étude de l'American Psychological Association, ce genre constant coûte jusqu'à 40% de votre productivité. Il faut faire de l'unique tâche. Hein.
Mais oui,
un truc, un autre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dérangé. Donc il faut enlever toutes les alertes, les téléphones, les bip-bip des mails qui montent par dans l'ordinateur. Enfin bref, tout ça.
S'enfermer dans le bureau.
C'est ça. Donc voilà. Après, il parle de planifier le lendemain. Alors ça, c'est vrai que la veille au soir, d'ailleurs, avec les woofers, souvent au repas, on dit bon, bah, demain, quoi, comment il fait, quel temps, on regarde, on programme un peu. Par quoi je commence c'est embêtant si le matin vous dites par quoi je commence, parce qu'il faut déjà... Tandis que la veille au soir, vous vous êtes dit, ah ben oui, tiens, il y a ça, ben oui, priorité 1, 2, 3. C'est un peu mieux. Alors, le site, c'est l'optimisme.pro.
C'est dûment noté.
Voilà. Créer un rituel de fermeture. Le problème de la journée qui ne finit jamais. Vous fermez votre ordinateur à 18 heures.
Oh là là, ça, c'est ambitieux. Ça ne s'adapte pas à tous les modes de vie et de travail. Hein.
Voilà. Donc, il faut dire le travail est terminé et on passe à autre chose. Les signaux d'alerte. Ah oui, il faut être attentif aux signaux d'alerte. Ben, ça, c'est ce qu'on dit dans l'association. Vous avez du mal à vous concentrer plus de 10 minutes. Ben oui, parce qu'on est à la génération du poisson rouge aussi.
Ben oui, tout est instantané.
9 secondes.
Ouais.
On tourne le bocal 9 secondes. Vous oubliez régulièrement des choses importantes. Oui, non?
Ben, je te renvoie la question, Catherine.
Eh ben, non, parce que j'ai un agenda, papier, tout bête, où j'écris. Et par exemple, les woofers, quand je dis « Ah ben, je vais vous rappeler à 14h lundi », je prends le téléphone et je mets une alarme à 13h50 le lundi.
Oui, mais j'avoue que je suis un peu comme ça, moi aussi. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne génération, mais j'ai mon agenda papier et c'est très important. Je suis très, très voilà. Carrée là-dessus.
Voilà. Et quand j'ai beau marquer sur l'agenda papier 13h50 le téléphone, mais là, je mets quand même la sonnette au téléphone parce qu'il se peut que je sois en train de jardiner et tout d'un coup, je fais « Oh, il est déjà 2h » parce que je ne regarde pas beaucoup la montre. Vous mettez deux fois plus de temps qu'avant pour accomplir des tâches simples. Alors ça, c'est sûr. Ça, si vous mettez deux fois plus de temps qu'avant, vous réfléchir. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard mental. Ça, c'est... Ouais, c'est embêtant. Vous êtes irritable avec vos proches. Bon, on en connaît des comme ça. Hein. On a eu l'expérience dernièrement d'une personne qui, à mon avis, était dans cet état-là et qui était irritable. Non, Lia?
Je ne sais pas si ça... Il y avait un parallèle avec le burn-out ou une névrose.
Oui, les deux. On va dire que l'un a entraîné l'autre et l'autre a entraîné l'un.
On ne dira rien.
Voilà. Vous redoutez le lundi dès le dimanche soir. Vous avez des pics d'anxiété inexpliqués. Vous pleurez facilement ou ressentez une tristesse diffuse. Alors ça, les crises de larmes. Je pense que c'est l'alarme numéro 1.
Oui.
La crise de larmes. Oui. Et les personnes qui ont ces problèmes de crise de larmes qui sont intempestives, c'est-à-dire qu'elles leur arrivent sans parler d'un truc triste, quoi. Trouble du sommeil. Alors là, pareil. Pipimpon, les pompiers, on appelle l'ambulance. Tension musculaire chronique, cou, épaule, mâchoire, problème digestif, fatigue permanente même après une nuit de sommeil. Checkez vos emails convulsivement. Compulsivement, c'était pas convulsivement, mais c'est un lapsus.
Ça amène des convulsions, ça c'est sûr.
C'est sûr, tu vois. je t'avais parlé pendant les deux mois de pause de l'association, j'en avais qui m'envoyaient un SMS, un mail, qui me téléphonaient, qui voulaient absolument, dans les 12 heures qui suivent, avoir une réponse. Oh
ben oui, on n'est plus habitué en fait, qu'on nous dise d'attendre, en fait. Ouais. Tout est instantané.
Ouais, ouais.
Ouais.
12 heures déjà, c'est pas mal. Hein.
Ah bon?
Ah ouais, moi, on me demande dans les 10 minutes. Hein.
Ah ouais?
Bah oui, c'est souvent ça. Ouais.
Voilà. Les gens, ils sont choqués quand tu leur dis. Quand tu leur réponds pas, déjà, c'est le drame. Et ça va activer tout le réseau autour de toi au cas où si t'es arrivé quelque chose, t'as perdu ton téléphone ou t'as plus le contact. Forcément, il y arrive un drame, tu vois, si t'as pas répondu dans les 5 minutes.
Ouais, mais bon, Lia, t'es encore toute jeune. Seulement, t'as connu. Le temps avant.
Mais bien sûr.
Le portable.
Mais bien sûr, mais moi, que j'appelais sur le fixe, et s'il y avait personne qui répondait sur le fixe, je me déplaçais jusqu'à la maison à pied, et je sonnais à la porte, et si personne n'était là, je revenais le lendemain.
Tu vois ?
C'était frustrant, mais
oui.
C'était normal.
Mais voilà. Donc, et puis on se demandait pas, tu vas là-bas, est-ce qu'il peut t'arriver quelque chose ? Oui, potentiellement, même avec le téléphone à la main, il peut me tomber un arbre sur la tête.
Bien sûr.
Mais potentiellement, oui. C'est pas le téléphone à la main qui va empêcher l'arbre de me tomber sur la tête.
On en avait parlé la dernière fois, là, des notifications, tu sais, tu vois quand l'autre a reçu ton SMS, oui, quand il a lu ton SMS et quand il est en train de répondre à ton SMS. Avant, ça, c'était consacré aux réseaux sociaux. Maintenant, tu peux le voir sur ton application message. Et ça, c'est horrible, en fait, parce que tu dis, bah, il n'a pas lu, alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas envie de répondre? Est-ce qu'il a oublié son téléphone? Il a lu, il ne m'a pas répondu? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose?
Oui, mais il y a quelque chose d'encore pire actuellement, je trouve, et c'est la géolocalisation.
Oui. Ah oui!
Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, soit qui commencent à avoir des enfants, ou des gens autour de moi, bref, qui soit leurs parents les géolocalisent, ou même en couple, les gens se demandent de se géolocaliser, et donc, tu sais, en permanence, c'est un contrôle sur l'autre épouvantable. Et ça montre à quel point on a besoin d'avoir une emprise sur, pour se rassurer, en fait, pour faire comme, OK, il est bien là, il est bien arrivé et tout. Mais voilà, c'est notre société qui est dans la surinformation tout le temps et on a besoin de savoir.
Dans le contrôle.
Oui.
Ça, c'est, je pense, ce qui est de plus pénible, c'est le contrôle. Et ça se voit à travers l'indice dont on parle à ralentir pour vivre sur l'épuisement, c'est la manie d'évaluation. C'est le contrôle. On veut tout savoir. On veut tout savoir sur qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils ont, où ils sont. C'est horrible, ça.
Et les réseaux sociaux, ça amène aussi à ça, parce que quand on va au restaurant, on publie où est-ce qu'on est, ce qu'on mange, ça a commencé par là, en fait.
Oui. Ouais. Ouais, alors, oui. Oui, alors, effectivement. Alors, vous reportez systématiquement les tâches importantes. Oui. Vous compensez par l'alcool, la nourriture ou le shopping. Bon, ça, ça existe aussi.
Ah, oui.
Et vous vous isolez socialement. Alors oui, justement, Génération Z, est-ce que vous vous isolez socialement depuis que vous êtes plongée comme ça dans les réseaux? Ou alors la plus jeune, ta petite sœur qui est plus jeune, est-ce qu'elle s'isole? Ça, je suis intéressée par cette question.
Ouais, ben, je pense que c'est du cas par cas. Je saurais pas dire de manière générale la génération, mais je pense que, ben, j'ai l'impression par contre que la pandémie de la COVID nous a remis en perspective à quel point on avait besoin de liens sociaux. Donc, je pense que ça a mis l'importance des relations sociales au centre. Par contre, c'est vrai que je connais beaucoup de gens, en fait, qui sortent très peu, qui voient très peu de gens parce que, en fait, ça a été tellement dans leur habitude pendant certaines années d'être confinés et de faire à peu près rien qu'ils ont gardé cette habitude. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont développé des phobies sociales, en fait, parce que à l'âge où ils se développaient socialement, vers 14, 15, 16 ans, ils étaient enfermés. Et donc, ça a été un grand choc de ressortir voir le monde. Donc, il y a un peu de toutes les réactions, mais je pense que autant les technologies que la COVID, tout a eu un grand impact.
Alors, ils disent que par rapport à tous les symptômes que j'ai dit, vous ne manquez pas seulement de temps, vous manquez de limites.
Ouais.
Donc, on arrive dans... Alors, est-ce que les jeunes sauront poser des limites? Je suis intéressée de voir ça.
Ah, mais c'est le travail d'une vie, je crois, savoir poser ses limites.
Puis c'est la société aussi qui doit évoluer, tu vois, là-dessus, quoi. Parce que... Et c'est peut-être là le problème. Enfin, c'est que, voilà, on a des générations qui évoluent, mais en fait, les gouvernements sont représentés par des personnes qui ne sont pas du tout de ces générations-là, qui ne sont pas du tout informées sur comment ça se passe pour eux. Et du coup, ça montre un énorme décalage, une fracture qui se fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, politiquement, on se retrouve nulle part, en fait, parce que ça ne représente plus...
C'est vrai.
Aucune.
Oui, et pour arriver en politique à des hauts postes, il faut nécessairement avoir été dans l'épuisement et dans la surperformance. Donc, nécessairement, ces personnes ont ce type de valeurs-là et de manière de fonctionner.
Oui, c'est ça. C'est intéressant. Alors, d'abord, je tiens à remercier Lily Jeanne, qui est un très joli prénom d'ailleurs.
Merci. Mais voilà. Merci à vous pour l'invitation.
D'avoir collaboré à cette explication de la génération Z. Lia, ça nous a appris quelque chose parce que tu as des enfants qui font partie de la génération Z.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai des enfants qui ont encore 15, 16, qui ont 15, 18 ans. Ils sont... alors, 15, vous avez dit que c'était la génération...
C'est à cheval.
Ouais, ok, c'est à cheval. Ok, moi, j'ai quand même des enfants là qui ont 18, 21 et 23 ans. Donc, ils sont en plein dedans, quoi.
Oui, ouais. Voilà.
Et j'ai les deux cas.
Et quand tu entends ça, tu retrouves des choses que tu connais.
Bah, j'ai un panel, en fait. Hein. Les enfants, les familles nombreuses, c'est un peu un panel représentatif de tous les cas qu'on peut rencontrer. Donc, j'en ai qui se fondent complètement dans cette société de consommation et qui acceptent, qui embrassent la compétition, même si je pense que ça ne durera pas longtemps. Et j'en ai qui sont complètement dans la rupture sociale, qui ont beaucoup souffert aussi et qui ne trouvent leur place nulle part, qui manque de sens. Et puis j'en ai un autre qui est plutôt dans l'émergence de l'alternative, qui aimerait penser une vie autrement, plus calme, plus en accord avec son environnement. Donc
c'est bien ce qu'on disait, c'est pas une situation globale, c'est une situation beaucoup plus indépendante et avec différents facteurs et à voir ce qui va germer de tout ce terrain.
Mais bien sûr.
Exactement.
On vous remercie beaucoup, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute et on vous dit à dans 15 jours. À bientôt.